Les cours du Collège de France, Nalini Anantharaman, chère géométrie spectrale.
Bonjour à tous. On va d'abord terminer le cours de la dernière fois en énonçant quelques conséquences de la convergence au sens de Benjamin-Isham pour des espaces métriques assez généraux. Alors, comme j'ai expliqué au départ, la notion de convergence de Benjamin-Isham, elle a été définie pour des suites de graphes discrets. Mais on trouve dans l'article dit des sept samouraïs hein, une version pour des suites d'espaces métriques mesurés. Mais à l'heure actuelle, elle a quand même essentiellement été exploitée pour des suites d'espaces localement symétriques. Cela dit, il y a quand même. Bon, je vais énoncer. Ce qui a été fait jusqu'à présent, je pense que c'est encore quelque chose qui mérite d'être exploré un petit peu plus. On avait vu pour des suites de graphes, quand on a une suite de graphes qui convergent, la mesure spectrale empirique converge. Quelque chose d'analogue dans le cas des suites d'espaces métriques, ça peut être énoncé comme ça. Donc on a... on va prendre une suite d'espaces métriques mesurés. Espaces métriques mesurés. Et je vais supposer qu'ils satisfont des conditions de courbure. Alors, je n'étais pas rentré trop dans le détail, mais CDKN, c'est la condition de courbure dimension qui avait été introduite par Sturm et Lott-Villani. C'est essentiellement une notion métrique de ce que ça veut dire, métrique mesurée, de ce que ça veut dire d'avoir courbure de Ricci plus grande que K et puis dimension plus petite que N. Et puis le R, c'est une notion qui a été développée en particulier par Nicolas Gilly et qui veut dire qu'il y a quelque chose de riemannien qui fait qu'en particulier il existe un laplacien. On a un laplacien sur les fonctions. Et on suppose que cette suite converge alors au sens de Benjamin-Isham qu'on avait défini la dernière fois. Donc, ça veut dire que les mesures sont finies, tendent vers l'infini, et puis on prend un point au hasard selon la mesure Mn. Donc en particulier, on a une suite d'espaces de mesures finies. Et on suppose que la mesure des boules, de toutes les boules de rayon 1, par exemple, est bornée inférieurement. Ça, c'est une sorte de condition de rayon d'adjectivité minorée. Donc, c'est pour tout x, c'est pour tout n. Alors, si je regarde le noyau de la chaleur, donc la trace, je vais l'écrire de deux manières différentes. Je regarde la trace du noyau de la chaleur sur xn, renormalisée par le volume de xn, donc c'est-à-dire par la mesure de xn. Ça converge quand... Donc c'est pour tout t, et quand n tend vers l'infini, ça converge. Donc l'objet limite, en fait, j'aurais dû dire c'est un espace métrique mesuré aléatoire. Hein. C'est même un espace métrique mesuré pointé aléatoire. Et ce qu'on obtient à la limite, c'est l'espérance... il faut prendre le noyau de la chaleur sur l'objet limite, x infini, et il faut prendre le noyau évalué en l'origine, et l'espérance porte à la fois sur l'espace métrique et puis sur le choix de l'origine. Alors j'ai dit que là, pour cette fin de ce chapitre, je ne ferai pas beaucoup de démonstrations. Essentiellement, donc ça, je peux aussi l'écrire. Ce que j'appelle la trace, c'est l'intégrale sur xn de pt du noyau de la chaleur en et puis là, c'est la trace renormalisée. Et si je veux, je peux aussi l'écrire comme une somme sur les valeurs propres du Laplacien. Enfin, je peux l'écrire. Ouais. Je peux l'écrire comme ça, dans le cas. Il faut peut-être des hypothèses, dans le cas compact. Alors, sous cette forme, en fait, le théorème, il est écrit nulle part, mais je l'ai écrit en préparant le cours avec l'aide d'un jeune qui s'appelle Kohei Suzuki. Mais essentiellement, la raison pour laquelle il n'est pas écrit comme ça, c'est que les gens qui s'intéressent à la convergence au sens de Benjamin Nishram, c'est surtout des gens qui travaillent sur les espaces localement symétriques, donc ils ne l'ont pas écrit comme ça. Et puis, par contre, les gens qui s'intéressent aux espaces métriques mesurés avec des conditions de courbure, ils ne connaissent pas forcément la notion de convergence de Benjamin Nishram. Mais en fait, pour démontrer ça, ça consiste à mettre ensemble essentiellement des résultats. De Gili, Mondino, Savaré. Sur la stabilité du flot de la chaleur. Donc le fait que le flot de la chaleur il passe à la limite quand on fait des convergences de Gromov-Hausdorff d'espaces métriques mesurés. Et puis il y a des bornes a priori sur le noyau de la chaleur, et c'est ces bandes-là en fait qui demandent des conditions cette sorte de conditions sur le rayon d'injectivité. Et ces bornes, en fait, elles ont c'est des choses récentes, à moins de 10 ans à chaque fois. Donc il y a dans le cas des variétés, c'est des estimés de type LIA ou des estimés qui disent que le noyau de la chaleur décroît de manière contrôlée. En fonction de la géométrie, et le faire passer à des espaces métriques, c'est des choses qui ont été faites récemment. Alors, on avait donné. Alors l'exemple principal, comme j'avais dit au départ, la définition de convergence au sens de Benjamin Nishram pour des espaces métriques, elle vient de cet article dit des sept samouraïs. Et ils ont surtout traité de cas, donc des espaces localement symétriques, dont des... Je ne redonne pas toutes les hypothèses, mais G, c'est un groupe de Lie semi-simple avec... toutes les hypothèses habituelles, et gamma n, un réseau, on va dire, sans torsion. Et on va supposer, on va supposer qu'au compact, parce que si on demande l'hypothèse sur le rayon d'injectivité, ça... Donc j'ai le groupe de Lie semi-simple, et sous l'hypothèse... alors, il y a l'hypothèse que Xn converge vers G. G sur K. G sur K, c'est l'espace symétrique associé au groupe de Lie, au sens de Benjamin Nishram, et rayon d'injectivité minoré. Et je vous rappelle aussi le résultat qu'on avait énoncé, toujours dû aux sept samouraïs, c'est que cette hypothèse de convergence au sens de Benjamin Nishram, elle est automatiquement vraie si G, c'est un groupe de Lie de rang supérieur ou égal à 2 et qu'il y a la propriété T. Un autre exemple, on avait donné des exemples du même type pour les graphes. prend M tilde le revêtement universel d'une variété compacte. C'est-à-dire que M, je peux l'écrire comme M tilde quotienté par un groupe d'isométrie qui agit librement sans point fixe. Et maintenant, je prends gamma N suite des sous-groupes des isométries de M tilde A. Donc Xn, on va supposer que le quotient est compact, par exemple. Donc si le rayon d'injectivité tend vers l'infini, alors Xn va converger au sens de Benjamin-Isram vers... Alors, la mesure limite... Attends, j'écris... Oui, pardon. Si j'écris que ça converge au sens de Benjamin-Isram vers... Normalement, la limite, ça devrait être un espace métrique pointé aléatoire, mesuré. Si j'écris juste un espace tout seul, ça veut dire que la limite est déterministe et que là, comme c'est un espace homogène, en fait, le choix du point base n'a pas d'importance. Normalement, je devrais écrire la masse de Dirac. La limite, en fait, c'est presque sûrement c'est G sur K, muni de la distance et de la mesure habituelle. Et puis, le choix de l'origine n'a pas d'importance parce que c'est un espace homogène. En général, sinon, la limite, ça doit être un espace métrique pointé aléatoire. Alors, dans ce cas-là, l'espace métrique limite, c'est toujours M tilde A. La seule chose qui est aléatoire, c'est le choix du point base. Et là, je rappelle cet exemple parce que je sais qu'il avait un petit peu étonné une ou deux personnes dans la salle. Donc, l'espace métrique, la mesure limite, c'est donc l'espace métrique, ça va toujours être M tilde A avec la distance et la mesure qui viennent de M. Ce qui est aléatoire, c'est juste le choix du point base et on le choisit uniformément dans un domaine fondamental. Donc D, c'est un domaine fondamental de l'action de gamma. Donc D, c'est un sous-ensemble de M tilde A. Bon, j'ai rappelé l'exemple parce que ça avait un petit peu étonné. Sur le groupe gamma N, finalement, il n'y a pas besoin de supposer qu'ils sont inclus les uns dans les autres et que c'est des groupes normaux. En général, on suppose ça parce que ça simplifie un peu la preuve. Mais en fait, on a juste besoin de savoir que le rayon d'injectivité tend vers l'infini et que... Finalement, le groupe gamma d'origine, il n'intervient pas trop dans l'énoncé, à part dans la définition de la mesure limite. Mais la mesure limite, finalement, ne dépend pas du... Enfin, c'est... En particulier, si on a... Voilà, la mesure limite dépend... En fait, un des corollaires du résultat, c'est que la mesure limite ne dépend pas du groupe gamma qu'on aurait pu choisir au départ. Après, il y a des modèles de surface hyperbolique aléatoire. Oui ?
Si tu veux prendre un domaine fondamental qui est compact, tu prends des boucles de plus en plus grandes, donc tu moyennes sur les boucles, ça va converger aussi ?
Non. Non, non. C'est...
Tu contiens une boule, elle va contenir un domaine fondamental.
Ah ! Oui, peut-être. Oui, mais pardon. Je dirais que oui.
Tu peux prendre deux domaines, l'union de deux domaines, trois domaines, quatre domaines, etc.
Je dirais que oui, tu pourrais. Oui. Je dirais que oui, mais bon. Donc l'argument, comme j'avais dit, ça vient. L'argument, on peut toujours extraire des sous-suites qui convergent. La mesure limite qu'on obtient, elle doit avoir la propriété d'une immodularité que j'avais énoncée. Et après, il y a un argument que j'ai trouvé dans un article de Louis Bowen qui dit que dans cette configuration-là, il y a une unique mesure qui satisfait la propriété d'une immodularité. Et tel que l'espace limite soit presque sûrement isomorphe à M tilde A. Donc c'est en fait, on sait, il y a une unique mesure possible et donc c'est forcément ça la limite. Alors là, je ne vais pas. Je ne vais pas expliciter, il y a pas mal maintenant de modèles de surface hyperbolique aléatoire dans la littérature, je ne vais pas les détailler, mais Alors, il y a le modèle de Val-Peterson, compact, on va dire. Donc, les deux principaux qui sont préférés par les géomètres, c'est le modèle de Val-Peterson et le modèle de revêtement aléatoire. On part d'une surface hyperbolique compacte et puis on prend des revêtements aléatoires. Et pour ces deux modèles, en fait, on a convergence, au sens de Banyamini-Schram, on a convergence presque sûre. Quand on fait tendre le volume de la surface vers l'infini. Et pour ces deux modèles, en fait, on converge encore une fois vers le revêtement universel. Donc encore une fois, là, l'espace limite, il est déterministe, et puis comme c'est un espace homogène, j'ai pas besoin de préciser le choix du point base. Et c'est vrai que quand on dit presque sûr, quelqu'un m'avait fait la remarque la dernière fois, souvent c'est plutôt des convergences en probabilité qui sont utilisées dans la littérature. C'est assez rare qu'on dise vraiment, dans le modèle probabiliste, qu'on dise vraiment comment on met ensemble toutes les géométries. En général, c'est plutôt, plutôt des convergences en proba. Je devrais plutôt écrire en proba. Un autre modèle que je veux mentionner pour montrer que la limite, c'est quand même pas toujours le revêtement universel, c'est le modèle de Budzinski-Curien-Petri. C'est un travail assez récent, je crois que c'est 2019, ou peut-être même après. On part d'un graphe 3 régulier aléatoire. Par exemple, un exemple. Et puis on se sert du graphe en fait pour recoller ensuite des pantalons. Donc par exemple, là dans le. Donc un graphe à n sommets va me servir à recoller n pantalons. Hyperbolique. Donc, par exemple, là, ce graphe-là, il correspondrait au recollement de deux pantalons comme ça. Et dans le modèle de Budzinski-Curien-Petri, en fait, les pantalons sont complètement déterministes, donc les longueurs des bords sont fixées égales à A, et puis on prend des twists égaux à zéro. Il y a une variante étudiée par Geoffrey Mathien où on prend. Donc là, ce qui est aléatoire dans ce modèle, c'est uniquement le choix du graphe. Les pantalons qu'on colle ensemble sont déterministes. Et il y a une variante étudiée par Geoffrey Mathien dans sa thèse où les longueurs des bords et les twists sont aléatoires selon des lois, par exemple, uniformes. Et là, il y a convergence presque sûre au sens de Banyamini-Schram, mais la limite, c'est une surface hyperbolique infinie qui n'est pas le plan hyperbolique. En fait, pour comprendre la limite, il faut partir de la limite de ces graphes 3 réguliers aléatoires. La limite presque sûre des graphes, c'est un arbre 3 régulier. Et puis, on recolle des pantalons hyperboliques en utilisant cet arbre. Donc, c'est une surface infinie comme ça. Et le point base, il faut le choisir uniformément au hasard dans un des pantalons. Donc voilà pour les quelques exemples. Vous voyez, hein, c'est pour l'instant la notion de convergence au sens de Banyamini-Schram d'espace métrique, elle n'a pas encore été beaucoup exploitée en dehors de ce cadre-là, en fait. Je voulais juste terminer pour mentionner le travail des sept samouraïs. Donc c'est dans le cadre de l'exemple 1. En fait, ils ont montré non seulement la convergence de la trace du noyau de la chaleur sur les fonctions, mais aussi sur les formes. Le théorème général que j'ai énoncé au-dessus, il est limité au laplacien sur les fonctions parce que, à ma connaissance, sur les espaces qui satisfont la condition RCD, il y a juste un laplacien sur les fonctions, il n'y a pas de laplacien sur les formes. Ça c'est... Alors, est-ce que je vais me souvenir des sets initiales ? Bien. Il m'en manque toujours un. Bon. Ah, Rimbaud. Alors, c'est comme ça, doit être comme ça. Donc, ce qu'ils ont démontré dans cet article, c'est qu'en fait, on a 1 sur le volume, donc la trace renormalisée du noyau de la chaleur sur les formes. Donc, c'est pour tout cas. On prend le noyau de la chaleur sur les K-formes. Hein. Ça converge dans N tend vers l'infini. Vers, alors il faut prendre, à la limite, il faut prendre, donc X infini, c'est ici, X infini, c'est l'espace symétrique limite d'un espace homogène, donc il faut prendre le laplacien sur X infini, et il faut, donc il faut prendre sur les K-formes L2, à la limite. Il faut prendre le noyau de la chaleur, il faut l'évaluer en un point. Prendre le noyau, et là encore une fois, comme c'est un espace homogène, le choix du point n'a pas d'importance. La condition de rayon d'injectivité minorée, elle sert en fait à avoir des bornes a priori sur le noyau de la chaleur. Ils ont le même type de condition. À un moment, dans la limite, on a besoin d'avoir des contrôles sur le noyau de la chaleur, et ça dépend du rayon d'injectivité. Et puis ensuite, et donc ils font ça, et après, en prenant T égale 0, on a un résultat sur les nombres de Betti, parce qu'ici, donc là, quand je fais T égale 0, la trace du noyau de la chaleur, c'est la dimension du noyau. Donc ça, c'est le KM nombre de Betti défini comme dimension des K-formes différentielles harmoniques, et puis c'est la trace renormalisée. Donc ça dit que BK donc le KM nombre de Betti renormalisé converge vers quelque chose, alors qu'on peut définir comme étant la limite de ça en zéro. Et ça qu'on appelle le KM nombre de Betti L2. C'est une sorte de trace de von Neumann, en fait c'est une trace par unité de volume si on veut. Hein. Quand on a des limites qui sont comme ça, des espaces infinis, la dimension de von Neumann, c'est une sorte de dimension du noyau, mais rapportée à l'unité de volume. Et ça, on appelle ça le KM nombre de Betti L2. Non, c'est pas un entier.
Mais du coup, la chaleur en 0, il n'est pas singulier T égale 0.
Euh... Non.
Alors,
déjà, j'ai oublié une chose, c'est que comme je suis en train d'agir sur un fibré vectoriel, il faut prendre quand même la trace dans chaque fibre. Donc là, il y a une trace. Alors, pourquoi? Non, je prends en infini, en fait. Non, si je veux récupérer la... C'est ce que je raconte. Oui, non, je ne veux pas prendre en zéro, je veux prendre plutôt en l'infini. Je veux qu'il reste que les formes harmoniques à la fin. Oui. Et en fait, ce résultat sur la convergence des nombres de Betti, il a été démontré dans un cadre beaucoup plus général de suite d'espaces métriques, mais pour l'instant, je pense sans exemple très frappant à part les espaces symétriques. Alors, c'est un théorème qui est au départ donc, dû à Louis Bowen, mais Bowen dit qu'il a pris l'argument dans un article de Elec. Et puis, Abert Bergeron, Bieringer et Gelander disent qu'ils ne sont pas contents de la manière dont a rédigé Bowen et ils l'ont réécrit. Voilà. Donc, ça, c'est dans les années peut-être à peu près 2012, et puis ils l'ont réécrit plus en détail quelques années après, peut-être 2016. Donc, en fait, c'est le même énoncé, mais c'est pour des espaces métriques généraux. Si on a Xn, des espaces métriques mesurés qui convergent au sens de Benjamin-Schramm vers quelque chose. Et puis, ils doivent satisfaire quand même des bonnes conditions. Et les bonnes conditions, enfin, c'est des choses assez naturelles. Par exemple, on veut que les sphères soient de mesure nulle. On veut que la mesure n'ait pas d'atomes. On veut que les espaces soient connexes par arc. Enfin, c'est des conditions assez naturelles. Alors, les nombres de Betti renormalisés ont une limite. Alors, pour tout cas... à une limite quand n tend vers l'infini. Et là, comme c'est des espaces métriques très généraux, il n'y a pas de forme différentielle, donc les nombres de Betti, ils sont définis avec de l'homologie simpliciale. Avec des complexes simpliciaux. Voilà, je vais arrêter ici pour ce passage en revue de la notion de convergence de Benjamin-Schramm. Et maintenant, je vais passer donc plus spécifiquement à la notion de convergence forte. Et je vais commencer par la. Donc, je vais parler des graphes réguliers. Donc, convergence spectrale forte. Je vais commencer par faire le cas des graphes réguliers aléatoires. Et je vais, alors, l'ordre dans lequel je vais faire les choses, je vais donner les arguments de Joël Friedman. Mais dans l'idée, plus tard, de les comparer avec la méthode qui s'appelle la méthode polynomiale, qui est sortie l'an dernier. Et entre-temps, je ferai un petit bout de la preuve de la convergence spectrale forte pour les matrices gaussiennes GUE, parce qu'il y a aussi des morceaux de preuves qui ont des similarités, donc je veux comparer en fait ces trois preuves. Donc, j'avais donné deux modèles de graphes réguliers aléatoires, et puis l'an dernier, j'en avais donné peut-être quatre. Ici, je vais faire la preuve avec le modèle de configuration. Friedman a tendance à préférer le modèle où on tire au hasard des permutations, mais il est quand même plus compliqué à traiter. En fait, dans ses articles, Joël Friedman a identifié toute une classe de modèles pour lesquels sa preuve marche, et il les appelle des modèles algébriques, et il a donné des axiomes de qu'est-ce qu'il faut à un modèle de graphe régulier pour que sa preuve marche, mais bon, ces axiomes sont pas très simples à lire, donc je vais faire le cas du modèle de configuration, et puis voilà, ce que Friedman appelle modèle algébrique, c'est en fait tout modèle pour lequel on va pouvoir faire le même genre de preuve. Donc le modèle de configuration, je vous rappelle, on va prendre des graphes déréguliers, et j'ai tendance à jongler entre deux notations. Donc dans les articles qui traitent de matrices aléatoires, le nombre de voisins, il a tendance à être noté D. Et dans les articles qui utilisent l'analyse harmonique, le nombre de voisins, on l'appelle plutôt Q plus 1. Donc je vais essayer de rester plutôt avec la notation D, mais si à un moment il y a la lettre Q qui apparaît, faudra se souvenir. Ou peut-être, oui, peut-être quand même je vais être obligé de... Je vais peut-être quand même avoir tendance à faire des allers-retours entre les deux notations. Donc le modèle de configuration à n sommets, on se donne donc n sommets, chacun muni de d demi-arêtes, et puis vous souvenez, on les a pariés au hasard. Et donc il y a d demi-arêtes par sommet, et on fait des mariages parfaits, hein, entre ces demi-arêtes pour obtenir des graphes d réguliers. Et donc l'espace des configurations, il a son cardinal, c'est nd-1, nd-3, c'est-à-dire c'est ce qu'on note, nd-1 double factoriel. Alors pour qu'il existe des graphes réguliers à nd sommets, il faut que nd soit pair. Nd-1, c'est le nombre de manières d'apparier. On choisit une arête et puis on choisit avec qui on l'apparie. Après, il en reste plus que, pour le coup d'après, il ne reste plus que nd-3 choix, etc. Donc c'est juste des dénombrements. Voilà, donc on prend tous les appariements possibles et on met la loi uniforme. Et on avait déjà démontré, hein, donc presque sûrement, là on avait vraiment démontré avec la convergence presque sûre, le graphe il converge vers l'arbre régulier. Ce qui implique que si je regarde la mesure spectrale empirique, alors je vais appeler peut-être comme ça lambda 0, ça va être la valeur propre triviale. Je vais supposer que avec une probabilité qui tend vers 1, le graphe est connexe. Donc la valeur propre triviale, donc il vaut D égale Q plus 1 qui correspond aux fonctions constantes, elle est simple. Et puis lambda 1, c'est la première valeur propre non triviale. Et ça, c'est les. Je vais raisonner avec les valeurs propres de la matrice d'adjacence. Sachant que le laplacien, c'est simplement la même chose, mais avec, à une translation près. Voilà, donc, comment je vais l'appeler ? On avait démontré qu'il y avait la convergence au sens de Benjamin-Isram vers l'arbre régulier, ce qui fait qu'à la limite, on a la mesure spectrale empirique qui converge vers. Donc, je prends pour toute fonction f, f continue. Ici, je vais avoir f du laplacien sur l'arbre régulier, évalué en la masse de Dirac en l'origine. Donc ça, c'est la convergence des mesures spectrales empiriques qui résulte de la convergence de Benjamin-Isram. Et il se trouve que cette mesure, on ne l'avait pas écrite, mais elle est complètement explicite, je vais l'écrire au moins une fois, c'est l'intégrale. Alors le spectre, si j'écris tout avec la matrice d'adjacence, à la limite, je dois mettre aussi la matrice d'adjacence. Et c'est l'intégrale d'une certaine mesure qui se trouve être absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue. Et je vais l'écrire. Je vais écrire cette mesure au moins une fois. Mais donc là, par exemple, j'ai utilisé petit q au lieu de d. Donc c'est une mesure, ce qui est frappant, c'est que son support c'est l'intervalle moins 2 racine de q, 2 racine de q. Et donc elle est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc au départ, les matrices d'adjacence de nos graphes, elles ont un spectre qui est compris entre moins q plus 1 et q plus 1. Donc ici, on a la valeur propre triviale, lambda 0. Mais à la limite, la mesure spectrale, la mesure spectrale limite, elle a une densité qui est contenue dans un intervalle strictement plus petit. Ce qui fait que. Donc le fait qu'il y ait ça, c'est ce qui s'appelle le trou spectral de l'arbre. De l'arbre dérégulier. Le fait qu'il ait un trou spectral, c'est lié au fait que ça soit un graphe non moyennable. Et cette convergence, elle implique que ici, tout des deux côtés là, le nombre de valeurs propres, ici et ici, c'est petit o de n. Ça, c'est vrai à partir du moment où on a en fait une suite de graphes qui convergent vers l'arbre régulier.
Cette mesure-là, on dirait un peu une espèce de transformée de la loi du demi-cercle. Il y a une interprétation derrière ou...
Oui, on peut.
Ça aurait pu être une sorte de transformée de Cauchy, un peu, je sais pas si...
Oui, il y a moyen de... Effectivement, je vais pas avoir la transformée en tête, mais il y a moyen de faire une transformée qui la renvoie sur la loi du demi-cercle. Et par ailleurs, là, je raisonne toujours à D fixé. Si je faisais tendre D ou Q vers l'infini, ça convergerait vers la loi du demi-cercle, mais il y a aussi moyen de faire une transformation algébrique qui la renvoie sur la loi du demi-cercle. Donc a priori, voilà, si on utilise juste la convergence au sens de Benjamin Ishram, on sait juste que ici et ici, le nombre de valeurs propres, c'est petit O de n, et la convergence spectrale forte. Quand on a juste un opérateur, hein, on avait dit que ça, la convergence spectrale forte, ça revient à dire que le support de la mesure spectrale converge au sens de la distance de Hausdorff. Donc ça va, ici, ça va vouloir dire, la convergence spectrale forte, ça va vouloir dire que le spectre de la matrice d'adjacence de notre graphe aléatoire, il est inclus dans alors à part la il faut quand même enlever toujours la valeur propre triviale. Donc on va enlever toujours. Alors le fait que la densité elle soit positive partout à l'intérieur de cet intervalle, hein, ça veut dire que les valeurs propres, quand n tend vers l'infini, elles vont devenir denses dans cet intervalle-là. Donc ici, dans ce cas-là particulier, la convergence spectrale forte, ça va être équivalent à montrer que... alors ici, on va se contenter de montrer que c'est vrai en probabilité. Dans le cours, là, on commence à connaître des vitesses de convergence, hein, mais je vais ni m'occuper d'essayer de faire tendre epsilon vers zéro, ni m'occuper d'évaluer la vitesse de convergence. Mais maintenant, on commence à savoir à quelle vitesse on peut espérer avoir des convergences comme ça. Donc ça, c'était ce qui s'appelait la conjecture d'Allon. Donc maintenant, à l'heure actuelle, il en existe peut-être 4 preuves dans la littérature, mais la première preuve, c'était Friedman, Joël Friedman, en 2008. Alors pour la preuve de Friedman, c'est un peu plus simple. Au lieu de considérer le spectre de la matrice d'adjacence, c'est de regarder le spectre de la matrice, on appelle parfois matrice de Hashimoto. Si j'ai un graphe régulier, donc c'est la matrice qui engendre ce qu'on appelle en anglais non-backtracking random walk, la marche aléatoire sans retour sur les arêtes. Donc c'est une marche, c'est la matrice qui correspond, qui correspond à une marche aléatoire sur les arêtes orientées, où on a le droit de passer d'une arête à une autre si le terminus de la première arête coïncide avec l'origine de la suivante. Mais par contre, une fois qu'on a parcouru une arête, on s'interdit de revenir sur l'arête inverse au coup suivant. Donc c'est une matrice qui est de taille, elle est indexée par les arêtes orientées. Ça veut dire que c'est une matrice ND croix ND. Et dans chaque chaque arête, dans chaque ligne et dans chaque colonne, il y a D-1, il y a D-1 et le reste vaut D0. C'est pour ça qu'il va y avoir des D-1 sans arrêt, donc c'est pour ça que parfois c'est plus simple de travailler avec le paramètre Q. Donc Donc c'est une matrice, je ne vais pas la normaliser, c'est une matrice de 0 et de 1. Donc dans chaque ligne et dans chaque colonne, il y a exactement D-1, 1 et le reste vaut des 0. Et en fait, il se trouve qu'une particularité des graphes réguliers, c'est qu'il y a une correspondance exacte entre le spectre de B et le spectre de la matrice d'adjacence. Si j'appelle A la matrice d'adjacence et que j'appelle les valeurs propres de A, je les appelle lambda I, toujours en commençant par la triviale, en fait le spectre de B, il est formé, on avait fait le calcul je pense il y a 2 ans, en fait, il y a un changement de paramètre pratique, et c'est là que c'est quand même mieux de raisonner, de décrire tout avec le paramètre petit q. C'est que je vais écrire que lambda i, c'est q puissance 1, ou lambda j, c'est 1 demi plus i sj plus q puissance 1 demi moins i sj. Donc, dans cette zone-là du spectre, ici, cette zone-là, c'est Sj appartenant à R. Et la zone du spectre qu'on veut, qui est celle qu'on n'aime pas, enfin, celle qu'on a envie d'exclure, celle-là, ça correspond aux Sj qui sont imaginaires purs. Donc, dans le spectre de B, il y a donc là, si vous comptez, là, ça fait 2n valeurs propres. Donc, il y a à la fois q puissance 1,5 plus ISJ et q puissance 1,5 moins ISJ. Donc ça, le spectre du Laplacien, en fait, il donne une partie des valeurs propres du spectre de la matrice de Hashimoto. Et le reste, c'est ce qu'on appelle les valeurs propres topologiques, qui sont 1 et moins 1, et qui, en fait, ont une interprétation en termes du nombre de cycles. Donc là, si vous comptez, il nous en manque. Donc là, c'est ce qui s'appelle les valeurs propres topologiques, qui ont une interprétation en termes de cohomologie. Et elles ont toutes les deux, elles apparaissent toutes les deux avec la multiplicité n d-2 sur 2. Et normalement, si on additionne tout, on retrouve bien la bonne dimension. Et en fait, là, ce nombre-là, c'est aussi le nombre d'arêtes. ND sur 2, c'est le nombre d'arêtes. Donc, c'est le cardinal de E moins cardinal de V, nombre d'arêtes moins nombre de sommets. Et ça va être l'occasion d'introduire une quantité qui s'appelle... Alors, parfois, on dit la caractéristique de l'air, mais là, je vais l'appeler plutôt le rang cyclique. C'est justement ces nombres d'arêtes moins nombre de sommets plus 1. C'est ce qui s'appelle le rang cyclique. C'est le nombre de cycles indépendants. Si on veut, c'est le nombre de... C'est le nombre de... d'arêtes qu'il faut... Le nombre minimal d'arêtes qu'il faut couper pour que le graphe devienne un arbre. Donc cette quantité, si je ne me suis pas trompée dans les signes, elle vaut 0 pour un arbre, et sinon, c'est le... Donc c'est 0 pour un arbre. Si mon graphe il a un cycle, et puis éventuellement des petits arbres, ça doit valoir 1, etc. Si j'ai deux cycles, comme si le graphe il a cette forme-là, et puis avec éventuellement des petits arbres qui pendouillent, ça va valoir 2. C'est quelque chose qui va ressortir de manière régulière. Et alors, dans la preuve de Friedmann, on va s'intéresser plutôt au spectre de... Alors, cette matrice, elle n'est pas symétrique. Hein, ça se voit d'ailleurs, en fait, le spectre de cet opérateur-là, il est marrant, il fait... En fait, les SJ qui sont réels, ça fait des valeurs propres qui sont sur le cercle de rayon racine de Q. Donc ça, c'est les SJ réels. Et puis, il peut aussi... Donc là, il peut y avoir les SJ imaginaires purs. Il donne du spectre... le spectre, il est soit sur ce cercle, soit sur ce segment qui va entre moins Q et Q. Donc c'est un opérateur qui n'est pas normal, qui n'est pas symétrique. Et dans la preuve de Friedman, ça ne pose pas de problème. Par contre, dans la méthode polynomiale, ça sera important de rester avec des opérateurs auto-adjoints. D'après ce que je comprends actuellement, la méthode polynomiale, ce que j'en comprends, c'est qu'il faut rester avec des opérateurs auto-adjoints parce qu'on a besoin du théorème spectral. Et on va s'intéresser donc à la trace de B puissance K. Je peux l'écrire toujours. C'est toujours cette même idée qu'une trace, ça peut s'écrire soit grâce à une somme sur les chemins, soit grâce à une somme sur les valeurs propres. Donc si je veux l'écrire avec des chemins, ça va faire la somme sur ce que j'appelle les géodésiques périodiques de longueur K. Et orienté. Ce que j'appelle géodésique, c'est simplement le fait de, quand je franchis une arête, de ne pas avoir le droit au coup suivant de faire un retour en arrière. Et ce que je compte quand je calcule cette trace, c'est des géodésiques orientées, puisque je compte des chemins comme ça. Le nombre de fois où je les compte, c'est le nombre de points sur la géodésique. Donc c'est elles apparaissent, chacune a un poids que je vais appeler T de gamma, qui est la plus petite période. Donc, parce que dans cette somme, je compte éventuellement des géodésiques qui feraient plusieurs fois des tours, mais je les compte que avec la plus petite période. Ou autrement dit, ça peut être... Je peux aussi écrire ça comme somme sur... Non, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Voilà. Par ailleurs, si je l'écris avec les valeurs propres, ça va faire somme pour J, somme sur les... Alors, je fais d'abord la somme sur les valeurs propres qui viennent des valeurs propres du Laplacien. C'est 1 demi plus ou moins ISJ. Et après, il y a les valeurs propres topologiques. Là, c'est à la puissance K. C'est comme ça pour l'instant. Et c'est légèrement plus pratique. En particulier, si on veut voir l'analogie avec la formule des traces de Selberg, en fait, de diviser par Q à la puissance K sur 2, ce qui fait disparaître... Si je divise comme ça, ça fait disparaître le 1/2 ici. Et là, ça fait apparaître un Q puissance K sur 2. Il y a seulement les cas pairs qui sont pris en compte ici. Ça, on peut dire c'est la formule des traces, mais je vais l'écrire avec une fonction test. C'est-à-dire que je vais prendre une fonction phi qui va de z dans c et pair. Et je vais faire somme. Pour l'instant, pour L positif, des phi de L. Je vais faire la trace de somme pour les L positifs de phi de L, B puissance L sur Q puissance L sur 2. Donc là, quand je vais me retrouver avec cette somme, ça va faire apparaître des séries de Fourier. Je vais appeler ça phi chapeau. fiche à... J'écrirai tout de suite ma définition de transformée de Fourier. Ça fait somme pour J. Là, ça fait sortir un fiche à peau de SJ. Comme j'ai commencé... Alors, oui. Comme j'ai commencé à L strictement positif, ça me fait sortir moins n fois phi de 0. Et puis là, je vais avoir plus somme pour L positif. Alors, phi chapeau, c'est... Ah, j'aurais peut-être pas dû l'effacer tout de suite. Donc, ce que j'appelle phi chapeau de S, donc si je pars d'une fonction qui est définie sur Z et qui est paire, c'est la somme sur les phi de L exponentielle. C'est un Q puissance I, L, S, et c'est pour L dans Z. Donc le terme ici avec le phi de 0, c'est justement, ici j'ai L égale 0 qui est pris en compte, et ici je ne l'avais pas mis, c'est pour ça que je... Et ça, c'est une fonction, elle est périodique... de période... Donc les L sont des entiers, donc la période c'est 2π sur log sur ln de Q. Et pour être sûr que la suite converge, je vais prendre phi à support compact, à support borné, quoi. Ce qui fait que là, mon phi chapeau, parce que dans la méthode polynomiale, ça va être important de savoir à quel type de fonction test on a affaire. Ici, mes fonctions test, ici phi, c'est un polynôme trigonométrique, phi chapeau. C'est un polynôme trigonométrique en S. Et puis, on peut aussi remarquer que c'est ce qu'on fait quand on fait des polynômes de Tchebyshev. Hein. Si je fais Q puissance ILS plus Q puissance moins ILS, si je voulais, je pourrais aussi l'écrire comme un polynôme de degré L en Q puissance IS plus Q puissance moins IS. Donc si je voulais tout réécrire en termes de la matrice d'adjacence, donc en termes de des lambdas, cette chose-là, ça serait un polynôme. Si je voulais, c'est un polynôme de degré un support borné dans moins L. Ici, les L sont des entiers. Ça, si je voulais l'écrire en fonction de lambda, ça serait un polynôme de degré L en lambda. Que j'écris pas, mais... Alors, la formule des traces, je vais réécrire encore d'une autre manière. Ça va consister à dire... Donc, la somme des phi chapeau de SJ... C'est égal. Alors, si je veux. Il y a cette somme-là, en fait, les termes topologiques, je peux les réécrire en termes de phi chapeau, comme une intégrale de phi chapeau sur une certaine mesure. Et là, c'est sur une intégrale sur un tore. Et Et ça, ça apparaît avec un poids n. Et puis, il y a une somme sur les géodésiques périodiques. Qui est celle que voilà, qui est celle qui serait venue en additionnant tous ces termes-là. Ça fait somme. Géodésie périodique orientée. Elles apparaissent donc tout le temps, chacune avec sa plus petite. Sa plus petite période. En bas, j'ai Q puissance L gamma sur 2 et j'ai phi de L de gamma. L de gamma, c'est la période. Donc, quand j'écris L de gamma, je peux compter des géodésiques non primitives. Et par contre, quand j'écris T de gamma, c'est la plus petite période. Donc L de gamma, a priori, c'est un certain multiple de T de gamma où N est un multiple supérieur ou égal à 1. Et ici, cette mesure, comment je l'ai faite sortir, c'est la mesure dont... elle va être définie par ces coefficients de Fourier. Donc l'intégrale de M vaut 1. Le premier coefficient de Fourier vaut 1. Et puis, en fait, donc les coefficients de Fourier de M, c'est ces nombres-là. Hein. C'est celui-là et celui-là. L'intégrale, ce que je veux, c'est que l'intégrale de Q puissance IS L dm, ça soit moins... d moins 2 sur 2. Donc en fait, elle a que des coefficients de Fourier pair. Enfin, ça, c'est simplement cette somme-là. Au lieu de l'écrire en fonction de la fonction phi, je l'ai écrite en fonction de phi tilde. Cette somme-là et cette intégrale, c'est la même chose, à condition de définir la bonne mesure. Donc c'est une mesure absolument continue par rapport à Lebesgue, et en fait cette mesure c'est la même, c'est cette même mesure là modulo le changement de variable. J'aurais pas dû l'effacer. C'est la même mesure que plus haut, après changement de variable. Le changement de variable lambda égale Q puissance 1/2 plus IS plus Q puissance 1/2 moins IS. Donc là. Donc en fait, ça, c'est ce qui s'appelle le terme topologique. On voit qu'il a un facteur n. Et là, on a le terme qui vient des géodésiques orientés. En fait, la convergence de. Donc on voit aussi que c'est. Plus naturel de raisonner avec des traces renormalisées. Hein, c'est plus naturel de renormaliser les traces. Et puis là, on a 1 sur n. Donc le terme dominant, c'est cette mesure. Et puis les géodésiques, elles apparaissent à des ordres inférieurs. Et en fait, la convergence de Benjamin-Ishram, elle sert justement à dire que ce terme, il est petit o de 1. Donc la convergence de Benjamin-Ishram, elle nous dit que ce terme il tend vers 0 après avoir divisé par n, et donc il nous donne en fait que la mesure spectrale limite vient de ce terme-là. Et maintenant, pour analyser la convergence spectrale forte, on va essayer d'en dire plus sur ce terme-là. Pour l'instant, ici, c'est une formule exacte qui est vraie pour tout graphe. Il n'y a pas besoin d'être aléatoire. Mais ensuite, dans la méthode à la fois de Friedman, dans la méthode polynomiale, etc., une fois que les graphes sont aléatoires, on va prendre l'espérance des deux côtés. Celui-là, il est déterministe. Donc, toutes ces méthodes basées sur la formule des traces, elles sont basées sur les tentatives pour essayer d'analyser l'espérance de cette somme sur les géodésiques fermées. Alors, pour ce modèle-là, l'analyse, elle dépend beaucoup du modèle probabiliste. Pour ce modèle de configuration, il y a un moment, il faut faire des dénombrements. Donc, je vais me donner un graphe. Et je vais compter, en fait, je vais vouloir essayer de donner une formule pour dire en moyenne combien de fois ce graphe apparaît dans mon graphe aléatoire. Donc, je vais partir d'un graphe fini. Il va avoir V sommet et petit V sommet et petit A arête. Et puis, je vais supposer que sa valence est plus petite que D. Et je vais vouloir donner une formule pour l'espérance du nombre de fois où ce graphe apparaît dans mon graphe aléatoire. Et après, je vais l'utiliser pour analyser les termes qui sortent là. Donc, ce que je vais appeler... Je ne sais pas si mes notations sont très bien. Donc, gamma, en tout cas, il a un ensemble de sommets et un ensemble d'arêtes. Et pour bien faire mes dénombrements, je vais m'intéresser à un étiquetage des sommets de gamma par des éléments de 1n. Ça va être... Donc, à chaque sommet, petit x, c'est une application qui, à chaque sommet de gamma, associe un des sommets de mon graphe. À la fin, je m'intéresse à un graphe. Les sommets de mon graphe aléatoire, ils restent toujours étiquetés de 1 à n. Dans le modèle de configuration, oui, ça j'aurais peut-être dû préciser. Dans le modèle de configuration, la manière dont j'ai construit, le graphe, il a toujours des sommets qui sont étiquetés de 1 à n. Et puis, les arêtes, elles ont toujours aussi... Les demi-arêtes aussi ont toujours des étiquettes. Au départ, je suis partie de sommets qui étaient numérotés de 1 à n et puis d'arêtes, de demi-arêtes qui avaient des étiquettes 1, 2, etc. jusqu'à d. Donc, dans mon graphe aléatoire, il y a des étiquettes, en fait. Ça, c'est... On ne les enlève pas, ce n'est pas l'habitude. On pourrait se dire qu'ensuite on les enlève, mais on les garde toujours. Donc mon graphe aléatoire, c'est un graphe étiqueté aléatoire. Donc je suppose que mon graphe gamma, là, j'ai une numérotation des arêtes, et puis j'ai aussi T des étiquettes. Dans 1D sur les demi-arêtes de gamma. Donc, je vais calculer la probabilité pour le modèle de configuration que gamma avec les étiquettes X et T soit réalisé. Ça veut dire que, voilà, là ça veut dire que je veux, finalement, je me suis fixé, dire que je me suis fixé les numérotations X et T, ça veut dire que je me suis fixé des sommets en bijection avec ceux de gamma dans le graphe, et puis je veux que les étiquettes, que les demi-arêtes que je me suis aussi fixé à l'avance, T, elles soient appariées. Donc je me suis fixé, en fait, dans l'espace de configuration d'arrivée, je me suis fixé en fait à la fois des sommets et des demi-arêtes dont je veux qu'ils soient appariés ensemble. Et donc ce qui me reste à compter, c'est toutes les manières d'apparier les autres arêtes. Donc je dois diviser par le nombre total de configurations. On avait dit que c'était le double factoriel nd-1. Et après, je dois compter le nombre de manières d'apparier les arêtes sur lesquelles je n'avais pas mis de contraintes. Et ça, c'est... En fait, je me suis fixé, finalement, je me suis fixé deux A contraintes. Donc, petit a, c'est le nombre d'arêtes de... c'est le nombre d'arêtes du graphe de départ. Autrement dit, c'est double factoriel nd moins 2a moins 1 divisé par double factoriel nd moins 1. Maintenant, ce que je vais appeler l'espérance du nombre d'apparitions, nombre de réalisations de gamma dans le modèle de configuration, dans Gn, c'est simplement c'est ce nombre-là. Une question. Donc ces nombres-là multipliés par le nombre de manières d'étiqueter. Donc je dois compter toutes les manières d'étiqueter à la fois les sommets et les demi-arêtes de gamma. Ça, c'est je vais le définir comme ça. C'est-à-dire que quand je compte, quand je compte le nombre de manières dont mon graphe arrive dans G, je le compte avec étiquetage. Ça veut dire que si mon graphe il a des symétries, il va se retrouver compté avec des redondances. Et c'est vraiment un casse-tête pas possible d'essayer. Si on veut pas compter avec l'étiquetage, après il faut diviser par des cardinales du groupe d'automorphie, c'est des choses comme ça, là je le fais pas. Hein. Quand je dis que je compte le nombre de réalisations, je compte des réalisations étiquetées. Et là, le nombre d'étiquettes possibles, alors c'est le nombre de manières, ben là c'est n-1 jusqu'à n-v, ça c'est pour les n-v plus 1. Ça c'est pour le nombre de manières d'étiqueter, d'injecter les sommets de gamma dans de 1 jusqu'à n. Sinon, ça c'est pour les x. Et puis pour les t, il faut un petit peu plus. Ça va dépendre. Ça va être le moment d'introduire ce que j'appelle la forme de gamma. Mon graphe, il ressemble à ça. Alors mes graphes, comme après je veux l'appliquer à des compter des géodésiques, mes graphes, ils ne vont jamais avoir de feuilles. Hein. Je n'aurai jamais dans les graphes qui vont apparaître dans cette méthode. C'est un des avantages d'utiliser la matrice de Hashimoto, c'est que mes graphes, ils n'auront jamais de... Mes graphes gamma, ils n'auront jamais de sommet de degré 1. Donc la forme de gamma, si je pars de gamma, ça consiste à effacer tous les sommets de degré 2 et à garder... Je ne garde que les sommets de degré strictement plus grand que 2. Donc si ça c'est gamma, sa forme c'est ça. Et puis pour, à partir de la forme, si je veux retrouver le graphe gamma, au moins à isomorphisme près, il faut que je me dise, il faut que je me donne le nombre de sommets que je veux remettre à l'intérieur. Hein, donc si j'appelle L1, L2, L indice ce qu'on veut. Si au départ, mais chacune des branches de gamma, elle avait L1 arête, à partir de F, pour retrouver gamma, il suffit que je me redonne les LI. Donc si j'ai une application L qui va des arêtes de gamma dans des entiers, je vais appeler peut-être 1.
C'est les arêtes de F,
c'est ça ? Oui, je prends les arêtes de F et maintenant il faut que je me redonne les longueurs. Et donc ces longueurs, elles doivent être au moins égales à 1. Et donc ce que je vais appeler peut-être F de L, je l'appelle, bon, c'est un vecteur parce qu'il a plusieurs composantes. F de L, c'est simplement je remets le bon nombre de sommets sur chaque arête pour retrouver gamma. Donc en fait quand je veux compter le nombre d'étiquetages, j'introduis ça pour l'instant pour compter le nombre de manières dont je peux étiqueter les demi-arêtes du graphe gamma. En fait, quand j'ai des sommets de degré 2, le nombre d'étiquettes possibles, j'ai pour chaque demi-arête, j'ai des choix d'un côté et des moins un choix de l'autre côté, parce que les demi-arêtes qui partent d'un même sommet, elles doivent avoir des étiquettes différentes. Donc je vais avoir des moins 1 à la puissance Li moins 1. Ça, là, je compte juste les manières d'étiqueter les demi-arêtes qui arrivent au sommet de degré 2. Et puis, j'ai un autre facteur que je ne vais peut-être pas écrire en détail parce qu'il dépend un petit peu des valences de ces sommets-là, mais c'est les manières d'étiqueter les sommets. Il y a un facteur en plus qui dépend que de la forme. C'est les noms des manières d'étiqueter les demi-arêtes qui partent des sommets de F. Et je pourrais l'écrire, mais ça dépendrait en fait des valences de ces sommets-là. Donc si je mets tout ça ensemble, il y a... Voilà. Les factoriels, je vais les développer. Donc j'ai n. Et puis je vais mettre les puissances de n en facteurs dans ces termes-là. Donc j'ai n à la puissance v. Je fais un... Bon, je fais comme si je faisais deux têtes, mais en fait, c'est sûrement... Là, ce que je fais, c'est simplement je mets les puissances de n en facteur dans, à la fois dans, ici, dans, dans ces termes-là et dans celui-là. Donc je vais avoir 1 moins 1 sur n, 1 moins 2 sur n, 1 moins v moins 1 sur n. Et puis en bas, j'ai un d puissance a dont je vais avoir. Alors, ça doit être. Bon, ça, c'est juste une manière de réécrire tous les termes avec des factoriels. J'ai ce facteur qui dépend de la forme. Et puis là, ici, la somme des Li, c'est le nombre total d'arêtes. Donc je vais avoir D moins 1 à la puissance A. Et puis les moins 1 ici, en fait, le nombre de moins 1, c'est aussi quelque chose qui dépend que de la forme. Donc je peux l'inclure. Les Li moins 1 là, en fait, je les incorpore dans le facteur là. Donc ça fait quelque chose comme ça. Il y a un, puis ce D là, il se simplifie avec celui-là. Et en fait, alors. La méthode polynomiale, dont je parlerai plus tard, je pense qu'elle s'appelle comme ça parce qu'ici, on a des polynômes en 1 sur n. Ici, c'est une fraction rationnelle en 1 sur n. Et c'est ça qui est vraiment exploité à fond dans la première... Actuellement, je pense qu'il existe deux versions de la méthode polynomiale. Et la première version, elle exploite à fond le fait qu'on ait une fraction rationnelle, donc un quotient de deux polynômes. Dans la deuxième version, en fait, on n'utilise plus le fait que ça soit exactement des polynômes. Donc elle devrait peut-être plus s'appeler méthode polynomiale, déjà la première version, mais enfin, voilà. Et je vais juste terminer en énonçant un petit lemme technique qui est celui utilisé par Friedman. En fait, dans les deux méthodes, on va faire... dans la version polynomiale 1, on peut se contenter de rester avec cette forme-là. Dans la version polynomiale 2, on doit faire un développement limité en puissance de n. Et c'est aussi ce que fait Friedman. Et en fait, ce qu'on voit apparaître quand on fait ce développement limité, donc c'est une proposition, en fait, on voit apparaître le fait suivant. Alors, on voit, il y a la fonction. On doit faire à chaque fois le développement limité de la fonction... La fonction qui est au numérateur, c'est 1 moins a, c'est, pardon, 1 moins x... 1 moins 2x, 1 moins, je vais l'appeler ax, pardon, 1 moins ax. Ah oui, j'ai oublié quand même de faire tout de suite la remarque importante, c'est qu'ici on retrouve encore une fois le rang cyclique du graphe gamma. C'est quelque chose qui est, déjà cette puissance-là, en fait, elle est négative. Et c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1 moins le rang cyclique de gamma. Est-ce que c'est dans le bon sens? Et c'est quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'est comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Donc on voit, en fait, et le seul cas où V moins A égale 0, c'est le cas des cycles. V moins A égale 0, ça veut dire que gamma, c'est un cycle sans auto-intersection, hein, Et éventuellement, il peut y avoir des petits arbres qui pendouillent, mais ça, encore une fois, quand on utilise la matrice de Hashimoto, on ne les verra pas. C'est un des avantages. Donc, à l'ordre zéro, en fait, les seuls graphes qui apparaissent, c'est ceux dont le rang cyclique vaut zéro. Et puis, les autres, en fait, tous les autres graphes, ils apparaissent à des ordres plus petits. Ça, c'est la première chose. Donc, dans cette proposition, on va regarder à quoi ressemble le développement limité. Enfin, ça, c'est un polynôme, mais on va regarder à quoi ressemble ces coefficients. Et l'autre fonction qu'on va regarder, c'est l'inverse de cette fonction. Bon, en fait, en réalité, on va même l'utiliser avec les nombres impairs, mais ce n'est pas très important. En fait, ça, je vais m'arrêter en énonçant ça, c'est un calcul élémentaire. Si je développe en puissance de x, et je regarde comment les polynômes dépendent de A, ici A c'est un entier, et je m'arrête par exemple à l'ordre n plus 1, alors, ce qui est important, vraiment important dans la méthode de Friedmann, c'est de remarquer que les RK de A, c'est un polynôme en A. De degré 2K. Et il peut être majoré comme ça. Alors, on n'a pas besoin de bornes super précises, mais il est même positif. Et je pense que... Et puis le reste... Oui, non, ici, il n'y a même pas besoin. C'est pour celui-là où c'est mieux... Là, on a une estimée du même genre. Attendez, ah oui. Celui qui a que des coefficients positifs, c'est celui-là. Alors, pardon. J'ai inversé le 1 et le 2. Ici, je vais mettre du coup... celui-là, il a des signes alternés qui ne sont pas très importants pour ce qu'on veut faire plus tard. Et celui-là, il a des signes positifs. En fait, c'est dans celui-là où il faut s'arrêter un moment, il faut évaluer le reste. Là, c'est vraiment exactement un polynôme. Et là, c'est pareil, les coefficients. Donc, dans les deux cas, c'est des polynômes de degré 2k en A. C'est vraiment ça qui est important. On peut faire des majorations un peu grossières, mais qui font sortir des... Dans la méthode de Friedmann, les constantes n'ont pas tellement d'importance, alors que dans la méthode polynomiale 2, les constantes ont beaucoup d'importance. Donc là, on a pareil, la même chose pour qk de A. Et puis, le reste... ce qui est important. Si je m'arrête à l'ordre n, le reste il va être grand taux de n plus 1 a puissance 2n plus 1 et puis il y a éventuellement des factoriels. Donc ça, c'est des calculs élémentaires. Donc voilà, les constantes qui sortent typiquement, c'est des factoriels ou des puissances de factoriels. Dans la méthode de Friedmann, ça n'a pas tellement d'importance, en fait, de connaître ces constantes, parce qu'on va de toute façon faire les développements limités à un ordre fini. Dans la méthode polynomiale, dans la deuxième version de la méthode polynomiale, c'est important que les constantes soient des factoriels ou des puissances de factoriels. C'est-à-dire qu'il faut être dans des classes jeux vraies. si on et par contre par, voilà si on est si on ça va voilà, dans la méthode polynomiale 2, donc ça, c'est celle qui est apparue cette année et qui est souvent utilisée, qui a été utilisée pour les modèles de surface hyperbolique aléatoire. Mais pour Friedman, ce qui est vraiment important, c'est de savoir que c'est des polynômes en A qui sortent. Et je continuerai la prochaine fois. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.